radiocultura.com.
Alors là, quand même, ça aura, il y aura 3 années jusqu'en 87, où ce qui se passera ici sera assez déterminant pour ce qui se passera quand même, me semble-t-il, sur le plan de l'organisation de l'action culturelle en Iparralde, globalement.
84-87.
Ouais. Jusqu'à la chute du centre culturel du Pays Basque. Et ça, il faut que vous compreniez bien ce qui se passe là. Il se passe que parallèlement à nous qui nous créons dans le contexte d'une petite ville ici, en Pays Basque intérieur, en Soule, se crée Uaitza. Sur non pas un contrat de ville moyenne, mais un contrat de pays, qu'on appelle à l'époque. Uaitza, la Soule, avec certains élus, administratifs aussi, comme Jacqueline Duchamp-de-Bord, qui se trouve maintenant en département, enfin en tant qu'administratif du département, mais qui à l'époque était secrétaire général de la mairie de Montléon, d'Ascon, et tout cela, ils sont très à la pointe en Soule, dans les années 80, pour batailler au niveau européen. Ce sont aussi des gens qui se sont formés beaucoup autour des Tcharis. Il faut savoir que l'AFMR des Tcharis a été un lieu de formation pour ces gens-là, extrêmement important à l'époque. Qui vont s'ouvrir sur le concert européen parce que Tchari, avec le père Dubosc, à la création des Tchari, hein, etc., sera un lieu de formation pour des Baki Kaboloki, pour des Iriar, je ne sais pas s'il est passé par les Tchari, je ne suis pas sûr de ça. Baki Kaboloki, je suis sûr. Celui qui est maintenant directeur aussi de la CCI. Non, pas de. Olagaray, Payo Olagaray, des gens comme ça. Et ça va être vraiment un île de formation pour ces gens-là, sur le plan d'aller chercher des subventions ailleurs, etc. Et il se passe que Uaitza donc se crée à ce moment-là en Soule, et que Uaitza va bénéficier pour François Staran, qui en sera donc le directeur pendant de nombreuses années, de ce qu'on va appeler, dans la foulée de l'élection de Mitterrand, en 81, des fameux 1000 postes FONJEP. Mitterrand, avec Lang, décide en 81-82 de créer sur le plan culturel et association et animation culturelle 1000 postes financés entièrement par l'État. Ça, c'est l'époque glorieuse, là. Et comme ces gens-là, d'Ascon et tout ça, sont très bien placés dans les couloirs des ministères, des machins et qui comment, ils bénéficient d'un poste FONJEP avec ça. Donc le poste d'Astaran, pendant quasiment une dizaine d'années, sera largement financé par l'État sur cette base de postes français. Il y en aura 1000 en France, ce qui est considérable. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... à vocation culturelle ou animation socioculturelle, mais surtout culturelle, animation socioculturelle. Mais ce n'est pas lié directement non plus à la jeunesse et sport. Autre chose. La jeunesse et sport en bénéficie aussi un peu. Mais ce n'est pas que ça.
C'est le ministère de la Culture.
Non. Je crois que je te dis une connerie. Ça, il faudrait quand même le vérifier auprès d'Astaran. Je crois que c'est via la jeunesse et sport que ces postes vont être donnés. Mais...
Si c'est socioculturel, c'est jeunesse et sport.
Je crois que c'est via la jeunesse et sport qui bénéficiera en UX. Hein. Mais j'ai un petit trouble maintenant, j'avoue. Mais en tout cas, c'est très important. Parce qu'en fait, Uaitza démarre très rapidement avec un permanent. Et un permanent qui a son poste quand même bien fixé. On n'a pas suffisamment évalué l'importance qu'auront quand même les années langues au niveau de la décentralisation culturelle.
Mais ça s'évalue à tout le
monde. Absolument considérable. Hein. Là, les années 80-90 vont être considérables. C'est un chamboulement total. C'est un chamboulement total parce qu'il faut comprendre 2 ou 3 choses. Là. Il faut avoir les éléments de ça. C'est que la décentralisation culturelle, dans les années 80, existe très peu en France. Les premières décentralisations culturelles, pour ceux qui bûchaient ça, c'est grosso modo dans les années 75-76 que ça commence dans certaines régions de France. Mais c'est Lang qui va donner un coup de fouet terrible à la décentralisation. Les lois de décentralisation avec notre cher Gaston Defer et tout ça, c'est dans la foulée de l'élection de Mitterrand dans les années 82. Jusque-là, les régions... Le niveau des régions commence dans les années 70 à s'organiser en France, mais les lois, les grandes lois de décentralisation, c'est de faire. C'est 82. Donc, c'est à partir de là que les DRAC commencent à s'organiser. Vraiment, c'est le béaba. Au niveau de Bordeaux, elle existe, la DRAC, mais direction régionale des affaires culturelles, c'est l'époque Lang, grosso modo, dans les années 84-85, que ça va se développer. Avant, ça c'est les MJC.
Malraux, c'est les premières décentralisations.
C'est les premiers éléments de ça. Je parle plus là, si tu veux. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Hein, de, ça, c'est l'étape précédente. Hein, ça, tu as parfaitement raison. Mais je veux dire, par rapport à des crédits décentralisés et tout cela, Malraux fonctionne beaucoup, les MJC fonctionnent beaucoup sur la centrale Paris, etc.
C'est-à-dire, non, c'est le ministère de la Culture.
C'est Langue après qui va développer ça au niveau des centralisations culturelles, et puis ça correspond aussi à d'autres lois de décentralisation sur d'autres plans. Ça, c'est une époque qu'il faut bien, bien maîtriser dans l'organisation de l'action sociale et culturelle en France. Ça, c'est une époque clé. Et nous, quelque part, comme dit très justement Jean-Claude, avec nos moyens du bord et nos piolets, nos maillets et tout ce qu'on fait, c'est pas notre faute, mais on arrive à ce moment-là, quoi.
Et comment ça se passe au niveau des postes alors ici? Est-ce qu'il y a des permanents
On commence d'entrée de jeu avec un permanent, c'est Beignat Caussade. C'est-à-dire que nous, on fait le pari, si tu veux, qu'on va pouvoir arriver à financer ce poste-là. Mais on se cassera à la gueule.
Bernard Caussade.
Oui, Beignat Caussade, tu l'as sur le premier document, c'est son nom. Depuis, j'ai complètement perdu. J'aimerais beaucoup retrouver ce garçon.
Okay.
Et on ne le voit plus. Il était devenu assureur après, il avait bien, bien appris parce qu'il avait un poste très mal assuré avec nous, toute évidence. Donc il a pris beaucoup plus sûr. Et c'est un gars, alors, vous ne l'avez pas connu, ou peut-être certains Topanchit, hein, c'était le frère de Jean-Louis Caussade qui sera aussi un élément absolument déterminant ici, à cette époque-là, à Yertsia, qui sera un des pionniers de Goulé Iratia, Jean-Louis Caussade.
Jean-Louis Caussade, c'est donc Christophe.
Voilà, qui va se tuer donc dans un accident de voiture. Ce sera sans doute la plus grande catastrophe qu'on vivra à l'époque ici. Et Beignat était son jeune frère, en fait. Moi, je souhaite qu'à Asparé, un jour, il y ait une rue Jean-Louis Caussade. Moi, c'est mon rêve. Je souhaite vraiment ça. Une rue Jean-Louis Caussade. Parce que je pense que ça a été un personnage absolument déterminé. Ça a été un des créateurs aussi de... C'est celui qui a été aussi l'un des pionniers du barbouillage des panneaux à cette époque-là, dire il faut que ce soit bilingue, etc. C'était vraiment un pionnier sur beaucoup, beaucoup de plans. Et ici, c'était un... Bon, on y passait des jours et des nuits, quoi, à l'époque, à travailler ici. Et bon, c'est comme ça la vie. Et Beignat, donc, d'entrée de jeu, son frère a été permanent ici. C'est-à-dire que très rapidement, nous, on a fait le challenge entre les différentes associations, entre les subventions, certes, qui nous paraissaient pas assez, comme toujours, et puis une bataille terrible qu'on menait vis-à-vis de notre chère maire actuelle à Asparem, et qui était à l'époque conseiller général, déjà, sur le conseil général, pour essayer de débloquer la situation au niveau du conseil général. Et là, ça a été une bataille féroce, terrible, terrible pendant 3 ou 4 ans, et on s'est cassé les dents, et on n'a pas réussi à débloquer la situation, mais on a failli.
C'était, il faut vous dire, ça s'appelait, pour la majorité de la Spanda, espagnol d'air. Hein. Bon, vous comprenez,
si.
Bien sûr que oui. D'entrée, on va commencer que c'était déjà espagnol d'air, hein. même dans le temps.
Oui,
parce que c'était le Vasco Trotté.
La maison des Espagnols.
Voilà, c'était comme ça.
Mais, il y avait deux solutions, c'était soit un Mata, soit espagnol. C'est pareil. Bon. Alors, j'ai parlé du AIDSA. Parallèlement, en Basse-Navarre, sur un contrat de pays, se crée Aïséberi. Mais Aïséberi ne bénéficiera pas de FONGEP. Ils n'ont pas réussi à débloquer le FONGEP. Mais pour une raison extrêmement, je crois, à mon avis, avec le recul maintenant, importante aussi. C'est-à-dire qu'à l'origine, Aïséberi, tu as des gens comme Ignat Larald, Arbelech, Daniel Arbelech, des gens comme ça à l'époque, qui sont sur Ostabat. Ostabat, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est un lieu extrêmement chargé d'histoire et tout cela, bien sûr. Ils avaient aussi une maison comme nous en plein milieu, que vous connaissez, la maison à Guisson. Et dans le cadre d'un contrat de pays de Basse-Navarre, là aussi, ils veulent en faire un lieu culturel. Et aussi, des gens comme Agnès Lignat Laral, Herbelech, font du théâtre à l'époque, etc., etc. Je ne sais pas s'ils ne jouaient pas dans l'île ou à Pat à l'époque, ou enfin bon. Non, on se dit, va répondre, c'est qui, à qu'est-ce que je déconne. Il faut accompagner, là, comme nous, Bordachouli, ici. On se dit, va répondre, c'est qui, hein. Il y a tel un des créateurs de RTB et tout ça. Bon. Mais il y a une bagarre terrible entre Saint-Palais, j'ai oublié qui était le maire de Saint-Palais à l'époque, et Ostabat sur cette affaire-là. Je pense que ça, ça va leur... ça va leur coûter beaucoup à l'époque. Mais bon, c'était aussi leur bagarre. Et Aïséberi secret, etc. Radio-cultura.com